Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Cette semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, j'écris une chronique un peu découragée. J'étais déçue des artistes québécois. Je m'ennuyais d'une certaine époque où, quand le Québec était attaqué, quand le français au Québec était attaqué, les artistes montaient au créneau, se mobilisaient, s'indignaient et vraiment se rassemblaient pour porter très haut la fierté du Québec. Et je déplorais le fait que, depuis la fameuse question au débat anglais, ben, les artistes québécois étaient aux abonnés absents, silence radio. Ils sont où, les artistes qui vraiment montent au créneau et sont offusqués par ce qui s'est passé, la gifle administrée par le Canada anglais. Donc, j'ai écrit cette chronique-là où je déplorais qu'il n'y ait pas d'artistes. Ben, écoutez, quelques heures après la chronique que j'ai écrite, je dis pas que c'est relié d'aucune façon, mais quelques heures après, l'auteur, poète, slameur, vraiment animateur et toutes sortes de choses, David Goudreau, que les gens adorent, a écrit sur les médias sociaux la chose suivante. Il s'est fait photographier à côté d'Ensaf Haïdar, qui est candidate du Bloc québécois dans Sherbrooke. Il a dit « Je vote Bloc québécois, je vote pour Ensaf Haïdar », alors que la bien-pensance canadienne nous accuse d'être une nation raciste. Quand on reconnaît notre nation, c'est une joie de voter pour une Québécoise d'origine saoudienne. Écoutez, on est dans une ère de bien-pensance. David Goudreau dénonce la bien-pensance canadienne et dénonce le fait que le Canada nous traite de racistes. Alors, j'ai juste une chose à dire. Ben, voyons donc. Merci, David Goudreau.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
C'est vraiment une histoire crève-cœur. Vous en avez entendu parler dans le journal ce matin. On en avait entendu parler déjà cet été. L'histoire de cette petite fille qui s'appelle Madison, qui est née avec une amyotrophie spinale. Elle a besoin absolument d'un médicament pour rien de moins que sauver sa vie. Mais c'est un médicament qui coûte très cher. Imaginez-vous, ça coûte 2,5 millions de dollars. On parle maintenant avec la maman de Madison, Alexandra Pedneau-Tremblay. Madame Pedneau-Tremblay, bonjour.
Bonjour.
D'abord, parlez-nous de Madison. Comment va-t-elle ces jours-ci? Comment va-t-elle aujourd'hui?
C'est sûr que, tu sais, on prend une journée à la fois. Tu sais, étant donné que c'est une maladie dégénérative, ben, tu sais, chaque jour est un peu plus critique pour elle. Mais écoute, pour l'instant, elle va bien, elle est stable. On prend une journée à la fois, là.
Quand vous avez eu le diagnostic pour Madison et que vous avez su qu'il y avait seulement un médicament à 2,5 millions qui pouvait la sauver, quelle a été votre réaction à vous et à votre conjoint, Mme Pedneau-Tremblay?
En fait, c'est sûr que heureusement, oui, il y a ce médicament-là, mais il y a quand même le traitement palliatif à la maladie. Présentement, elle n'est pas sans traitement. Elle a quand même le traitement palliatif qui ralentit la progression de la maladie, mais ça ne l'arrête pas. Quand on a appris qu'il y avait une thérapie génique, que c'est une quasi-cure, c'est quasiment un médicament pour enrayer complètement la maladie, c'est sûr que tu sais, on était très content de savoir ça, mais de savoir qu'il n'était pas encore payé par le gouvernement, on était un petit peu dévastés là, de cette nouvelle-là.
J'imagine. Donc, on comprend que le gouvernement du Québec ne vous remboursera pas un médicament qui coûte 2,5 millions. C'est pour ça que vous avez lancé une levée de fonds. Vous avez ramassé combien d'argent jusqu'ici et il vous en manque combien?
Il nous manque 2,5 millions de dollars. On a ramassé 250. Il nous manque un petit peu moins que 2,5 millions. On a ramassé en tout 250 000. En tout, on a environ 400 000.
D'accord.
On sentait qu'il nous manque un petit peu encore, mais bon, ça avance à petits pas.
D'accord. Alors, on comprend qu'il y a ça, une sorte de date butoir, là, de date critique, qui est le 21 novembre. Pourquoi cette date-là est critique, Mme Penneau-Tremblay?
En fait, c'est parce que le traitement, c'est une thérapie que plus que le temps avance dans la maladie, plus la maladie a gagné du terrain. Étant donné que c'est dégénératif, on s'entend que de semaine en semaine, elle perd ses capacités. Puis le traitement, il est de moins en moins efficace plus qu'elle avance, plus qu'elle grandit, plus qu'elle vieillit. Fait que passé 6 mois, les effets du traitement sont en chute libre. Là. C'est comme inversement proportionnel là, avec son âge. Là. Fait que plus qu'elle est grande, plus que ça marche moins. Mais si on a quand même jusqu'à 2 ans, mais tu sais, à 2 ans, les effets du traitement, là, c'est sûr que il y a des effets quand même, mais c'est petit.
D'accord, on comprend, puis tout à fait, votre image est très bonne, là, inversement proportionnel,
oui,
ça veut dire
oui,
plus éveillé, moins le médicament peut être efficace, donc c'est pour ça que les prochaines semaines sont particulièrement cruciales.
Oui.
Alexandra, parlez-nous un petit peu des négociations que vous avez pu avoir avec le gouvernement pour pouvoir venir en aide à Madison.
Écoute, c'est probablement des secrets polichinelles. On n'est pas capable d'avoir de soutirer d'informations concernant les négociations. Je voulais savoir le prix qu'il voulait payer, que voulait payer le gouvernement, mais on n'a pas de réponse à nos questions. Ça fait beaucoup, beaucoup de mois qu'ils sont en négociation. J'ai pas l'impression que ça va se terminer bientôt. Mais on a aucune réponse à cette question-là. J'aimerais ça le savoir même.
D'accord. Mais Alexandra, juste pour bien comprendre, c'est que le gouvernement du Québec est en négociation avec le fabricant du médicament. Je pense que c'est Novartis, c'est ça?
Oui, c'est bien. Ils sont en négociation.
Mais vous n'avez pas moyen de faire pression sur Novartis ou de faire pression sur le gouvernement pour accélérer les négociations?
Écoute, c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Je sais que Madison n'est pas seule au Québec en attente de ce traitement-là. Écoute, on essaie de faire bouger les choses, t'sais, on essaie de faire en sorte que, tu sais, oui, je comprends qu'ils sont en négociation, mais tu sais, je pense pas qu'ils ont besoin d'acheter 150 traitements à 2,8 millions, là. On se demande, tu sais, sont-ils capables de faire une exception pour sauver la vie de ces enfants-là en attendant? Tu sais, je veux dire, c'est dégénératif. Ça peut pas attendre, tu sais, des fois, on essaye de comprendre, mais on aimerait ça que ça bouge. On a essayé, mais je pense que c'est avec la puissance de tout le monde qu'on peut réussir.
Oui, c'est pour ça, parce que au cours des derniers jours, nous, on a été sollicités comme médias pour justement pour être vos porte-parole, puis ça nous fait plaisir de le faire, parce que on aimerait tous pouvoir sauver Madison, puis vous êtes très généreuse parce que vous nous rappelez en effet que Madison n'est pas la seule. Est-ce que vous le sentez, cet élan-là de solidarité? Est-ce que vous sentez que la population québécoise est sensibilisée à la cause des enfants qui, comme Madison, sont atteints de cette maladie-là?
Oui, écoute, je pense que les enfants, ça touche beaucoup de monde. Puis je crois aussi que le monde compte un petit peu, là, le mot, hein, je vais parler peut-être pas bien, ils sont un peu tannés, là, de un peu ce qui se passe, là, concernant la santé, là, au Québec. Je pense que, tu sais, les gens sont un petit peu tannés de tout ça, là. C'est sûr que, tu sais, les gens sont quand même vraiment très généreux avec nous. On est supportés, on n'est pas seuls. On se sent pas seuls non plus, là, dans ce combat-là. Mais tu sais, c'est un gros combat qu'on s'en va faire.
Peut-être une question, Nounoune, Alexandra. Pourquoi les médicaments coûtent 2,5 millions? C'est cher en tabarouette?
Ouais, écoute, ben c'est le médicament le plus cher au monde, là. Je sais que tu sais, c'est une thérapie génique. Fait que tu sais, on s'entend, tu sais, même les mots sont savants, là. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail puis de recherche là en arrière de ce petit vaccin-là. Mais tu sais, je comprends pas que ça coûte aussi cher, parce qu'il y a personne sur la planète qui peut se payer ça à part les multimillionnaires, là, les multimilliardaires. Mais tu sais, sa planète, on n'est pas beaucoup à pouvoir s'acheter ça, là, si le gouvernement nous donne pas un coup de pouce là en arrière de nous, là. Mais c'est une thérapie. Fait que j'imagine que c'est pour ça.
C'est ça. Parce que c'est pas comme si c'était 2,5 millions pour une pilule, puis que la pilule, vous lui donnez une fois à Madison, puis tous ses problèmes sont réglés. On comprend, vu que c'est une thérapie, c'est que c'est un traitement qui va s'échelonner sur plusieurs semaines, peut-être même sur plusieurs mois. Donc, il y a plusieurs doses, et la totalité de ces doses-là coûte 2,5 millions.
En fait, non, c'est une dose pour toute sa vie.
Hein?
Fait que, oui, c'est une seule dose pour toute sa vie. Fait que c'est 2,8 millions pour une fois toute sa vie, puis on n'en parle plus.
Bon, mais
c'est
j'ai.
C'est vraiment une fois, là.
OK, j'ai la solution pour vous. Oui. Ben, oui. Allez vous acheter un billet de l'Auto 649.
Oui, ben, écoute, on espère bien gagner. On ne sait pas qu'on s'en achète pas. On s'est inscrit à la loterie du vaccin. On a tout essayé de faire pour essayer de gagner quelque chose, mais on a gagné plus à la loterie de la malchance de ce côté-là.
Oh, comme c'est triste. Comme ouais. C'est triste ce que vous nous racontez. Alexandra, je veux parler un petit peu plus de ce que ça implique pour vous, là. Votre fille, donc, bientôt va avoir 6 mois. Les 6 derniers mois ou les 5 derniers mois depuis qu'elle est née, vous, est-ce que vous avez pu recommencer à travailler ou c'est à temps plein de vous occuper de Madison et de vous occuper de la sauver, de lui sauver la vie?
Ben c'est sûr qu'en ce moment on travaille à temps plein pour essayer de ramasser ce médicament-là. Pour l'instant là, elle est stable. C'est un bébé qui demande quand même beaucoup de soins. Elle a des assistantes respiratoires pour dormir. Pour s'alimenter, c'est un petit peu plus difficile. Faut la surveiller quand elle dort pour pas que il y a comme des risques qu'elle arrête de respirer là, évidemment. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu c'est un peu stressant là pour une maman tout ça. Mais tu sais, ça fait partie de notre quotidien puis on s'adapte là. C'est pas évident, mais on s'adapte.
Est-ce qu'elle est à la maison ou elle est hospitalisée?
Oui, non, elle est à la maison. Moi, je suis infirmière.
Fait que, ça aide.
Je suis en congé maternité. Fait que je connais un petit peu toutes les affaires qui tournent autour d'elle. Là. C'est sûr que je suis quand même habituée à tout ça. Mais quand on est maman, on a de la misère un petit peu à être infirmière en même temps. Nos jugements sont moins présents.
Non, je comprends, mais en même temps, votre objectif est toujours le même, c'est celui de prendre soin de Madison. Je vais vous poser une autre question, Alexandra. Nous, on vous écoute, on est sensibilisés à votre cause. Comment on peut vous aider?
Écoute, moi je crois que j'aimerais que l'histoire se rende vraiment à sensibiliser vraiment le fait que les négociations, ça peut attendre. Le fait que le Québec au complet, même le Canada, soit au courant de tout ça. Parce que, tu sais, dans d'autres provinces du Canada, il est payé, ce médicament-là.
Hein?
Tu sais, on est comme... Ouais, il y a d'autres provinces au Canada qui est payé. Fait que, tu sais, on est comme... Une province qui l'est pas encore acceptée. Fait que, on voudrait faire bouger, que ça avance, puis que, tu sais, qu'on soit connu, OK, que le monde, il nous aide à nous donner de l'argent, à essayer de ramasser ça. Mais c'est pas évident. Je comprends que le but est loin.
Non, mais là, vous venez de me donner une information qui est vraiment absolument hallucinante. Le médicament dont vous avez besoin de Novartis, si Madison était née en Ontario, donc juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais, le gouvernement ontarien aurait payé pour son traitement.
En effet. Tout à fait, c'est ça. Il est payé dans d'autres régions, dans d'autres provinces du Canada.
Et quel genre d'explication vous avez de la part du gouvernement du Québec pour expliquer que ce qui se fait dans le reste du pays ne se fait pas ici?
Écoute, je le sais pas. Peut-être parce que les autres pays ont négocié en attendant, mais je le sais qu'il y a des enfants dans d'autres provinces du Canada qui ont eu accès au traitement malgré les négociations, que le gouvernement s'est dit « OK, c'est une maladie dégénérative, on va y donner en attendant qu'on négocie ». Mais sinon, c'est sûr que on trouve ça un peu, tu sais, c'est un peu injuste là, qu'on est Canadien avant tout aussi là.
Mais vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Parlez-nous un peu de la maladie de Madison. Ça s'attaque à quoi? Ça s'attaque à son système nerveux, son système digestif. C'est juste pour nous démystifier un peu la maladie qu'elle a.
En fait, c'est neurodégénératif là. C'est dans le fond, il manque un Il manque une protéine dans son ADN pour reconstruire ses nerfs et ses muscles. Fait que ça fait en sorte que ses muscles se dégradent. Ça attaque vraiment les muscles là, reliés à des nerfs, les muscles là, des bras, des jambes, t'sais, vraiment les muscles du corps humain, puis aussi les muscles de la respiration et de la déglutition. Ça veut dire que plus la maladie avance, un jour, elle sera peut-être plus capable de respirer par elle-même.
Oh, pauvre chouette.
Fait que là, c'est sûr que à partir à un mois, elle a arrêté de bouger complètement. Là, il y avait juste les petits doigts qui bougeaient. Là. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, elle est presque paralysée. Mais c'est pour l'instant, elle est stable. Fait qu'on est encouragés.
Comment vous arrivez à tenir le coup, Alexandra? Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous tient?
Je me le demande. Des fois, on se demande qu'est-ce qui nous tient, mais je crois que on a espoir, puis je pense que c'est ça qui aide. Puis la petite, je veux dire, ça l'attaque les muscles, mais elle a une force de caractère qui nous donne du courage là, fois mille. Puis c'est une petite fille qui est heureuse, puis elle ne sait pas qu'elle est malade. Là, fait que ça nous donne du courage de continuer puis de faire en sorte que sa vie soit belle. Là. Mais elle ne sait pas qu'elle est malade. Là, et ça, elle n'a pas de déficience intellectuelle non plus. Ça n'attaque pas le cerveau. Là. Fait que c'est quand même. C'est pas douloureux non plus. C'est pas une maladie qui fait mal. Fait que ça nous console un petit peu de savoir qu'elle ne souffre pas.
Elle ne souffre pas, mais. Non. Le pronostic est pas...
Ah, le pronostic, c'est très sombre. Avant que les traitements là, palliatifs existent, ou ce traitement-là, tous les enfants décédaient de cette maladie-là. C'était la première cause de décès là, des jeunes, des bébés, là, avant que le traitement existe.
Alexandra, je vous trouve bien courageuse d'être venue nous parler de ça aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, vous en avez bien besoin. Un bisou de la part de Cube Radio sur le front de Madison, un gros câlin. Puis écoutez, moi, ce que je retiens de ma rencontre avec vous aujourd'hui, c'est que à la loterie de la vie, elle est née au Québec, à Chicoutimi, et que si elle était née en Ontario ou ailleurs au Canada, le traitement, elle l'aurait. Et ça, au moment où on est en train justement de parler de notre place dans la Confédération, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Donc, on espère que le gouvernement québécois va être sensibilisé, non seulement à la situation de Madison, mais des autres enfants qui souffrent de la même maladie dégénérative. Quel bon courage, Alexandra.
Merci. Ben, merci à vous. Puis on va se tenir. C'est sûr qu'on n'est pas seule dans ce combat-là. On est tout avec elle. Puis elle est avec nous en premier lieu aussi.
Est-ce que vous pouvez, en terminant, Alexandra, juste nous donner l'endroit, le GoFundMe, où on peut aller donner des sous pour ceux qui veulent aider Madison?
Le GoFundMe, ça s'appelle « Un miracle pour Madison ». Sinon, il y a la page Facebook que ça s'appelle « Réalisons un miracle pour Madison », que tout est bien inscrit sur ce site-là. Là. Enfin, ça s'appelle vraiment « Un miracle pour Madison », le GoFundMe.
Bon, on va encourager tout le monde à se sensibiliser à la cause. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci à vous.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
La télé-réalité dont tout le monde parle en ce moment, c'est bien sûr l'Île de l'amour présentée sur TVA. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est trop centré sur les apparences. C'est une télé-réalité, si vous en avez pas entendu parler, où des jeunes et jolis célibataires sont amenés dans une villa au Mexique et doivent trouver l'amour. On va écouter, pour commencer, le témoignage, la présentation d'une des candidates, Audrey.
Moi, les gens, quand ils me voient, il y a la première impression, ils pensent que je suis une Barbie, pas de tête, tout ça, mais c'est vraiment pas ça, là. Moi, je suis une Barbie tomboy. T'sais, j'ai été élevée avec des quatre roues, des skidoos. T'sais, moi, je suis capable de partir un feu avec des faux ongles.
Je suis capable de partir un feu avec des faux ongles. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'en pense Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude.
Ben, bonjour, Sophie. Alors, oui, hier, j'ai regardé un divertissement et pas une émission de croissance personnelle. J'ai compris ça dès le départ.
Oui.
Parce que comme ça, ça m'a permis vraiment de le regarder, tu sais, avec moins mon niveau de... Est-ce que c'est un deuxième degré ou un troisième degré? Non, ce qu'on voit, c'est ça. Moi, il y a des choses qui m'ont étonnée. Là, on vient d'entendre Audrey, effectivement, qui dit, regarde, moi, je suis une fille... tu sais, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ce que je suis, mais... J'ai été étonnée, Sophie, je ne sais pas si tu as été étonnée comme moi, des attentes des filles. Parce que comment ça fonctionne là, pour les gens qui ne l'ont pas regardé, c'est que les filles, les gars passent à tour de rôle devant les filles et elles doivent avancer si ce gars-là leur plaît, parce que l'idée, c'est de former des couples. Il faut toujours qu'ils soient en couple dans cette émission-là. Et ça a pris du temps là avant. Il y a eu trois gars qui ont passé, puis les filles n'ont même pas avancé. Donc, ces gars-là étaient mis un peu au rancard. Mais tout ça pour dire que j'avais l'impression qu'elles voulaient avoir des gars de 7 pieds avec 60 abdos. Des bras plus gros que leur tête.
Et des tatouages. Il faut que les gars aient des tatouages. Oui.
J'en revenais pas de ces attentes-là et c'était vraiment des caractéristiques physiques. Tu vois, moi, ça, c'est la première affaire qui m'a comme, ah, OK, les gars, ils ont de la pression, là, présentement.
Mais oui, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un petit peu un retournement parce qu'on est habitué, évidemment, on vit dans une société où les critères pour les femmes sont extrêmement exigeants. Oui. Puis là, c'était vraiment très particulier de voir la vapeur renversée où c'était des femmes. Écoute, les gars défilent les uns après les autres, puis elles sont là, puis elles lèvent le nez. Ah oh non, il n'est pas assez grand. Ah oui. Oh non, il n'est pas assez musclé. Ah oh non, il n'y a pas le petit je ne sais quoi. Écoute, c'est vraiment particulier. Et oui, non,
mais
vas-y.
Attends, je veux juste te dire qu'à un moment donné, j'ai entendu une fille dire « ça sent le buffet ».
Oui.
Alors, j'imaginais que si un gars avait dit ça devant une
T'as tellement
de filles,
raison.
Oui. « Ça sent le buffet », je dis « oh ». Alors, tu sais, on est, c'est autre chose, là. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai réagi quand même. J'essayais de me calmer, mais je réagissais à quelques phrases comme ça.
Oui, et ce qui est très particulier, parce que bon, au fil des épisodes, bon, évidemment, il y a des coupes qui se font, il y a des coupes qui se défont, parce que la production envoie des nouveaux gars, des nouveaux participants pour un peu brouiller les cartes. Et ce qui est particulier, c'est que moi, je trouve ça très touchant parce que bon, toi, t'as des enfants qui sont peut-être plus âgés, évidemment, que le mien. Puis je me disais, dans le fond, ils commencent dans la vie, tu sais, ils ont, mettons, 21, 22, 23 ans et il y a quand même ce désir, au-delà des apparences, au-delà d'avoir du sexe facile pour une nuit, ces gens-là sont vraiment là parce qu'ils veulent une relation, ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus. Mais à un moment donné, il y a une des filles, elle part à pleurer parce qu'il n'y a aucun des gars qui l'a choisi. Puis je me disais, au-delà de tous ces lèvres botoxées, au-delà de tous ces, peut-être ces faux seins, au-delà des gars super musclés, on a juste des êtres humains qui veulent être aimés, qui veulent être choisis. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée.
Ben moi, je vais te poser une question, Sophie. Est-ce que tu as l'impression qu'ils veulent qu'aimer quelqu'un?
Ben moi je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu sais, je veux dire, c'est bien sûr ces candidats qui sont là, c'est beaucoup les apparences, mais ce qui revient le plus souvent, c'est ils disent bon ben moi je tripais sur toi parce que j'aimais ta vibe puis j'aimais les apparences, mais j'ai vraiment besoin d'aller te parler, qu'on se connaisse mieux pour savoir vraiment si ça clique. Puis je m'attendais pas à ça, honnêtement. J'ai été agréablement surprise par cet aspect-là où tout le monde dit ben il faut qu'on se parle, puis c'est pas juste les apparences. Après, est-ce que c'est vraiment sincère? Mais c'est ce qui revient tout le temps. Ils sont toujours en train de dire ça, là.
Oui, et on sent que c'est important d'exister dans l'œil de l'autre. Et
voilà.
Ça, c'est pour... Ah, ça, c'est pas juste dans cette émission-là, c'est dans la vie. On est plusieurs, tu sais, à vouloir exister dans l'œil de l'autre. Et ça, c'est comme au sens, je veux dire, c'est vraiment, c'est ça. C'est...
Marie-Claude, on a eu un petit problème, donc on va passer à une autre ligne téléphonique. Donc, tu étais en train de nous dire que de l'importance d'exister dans l'œil de l'autre. Et c'est vrai, c'est très touchant quand même.
Oui, puis... Je pense qu'elles vont de là-dedans qui se reconnaissent, dans le fond, plaire. Et moi, je pense qu'on va avoir bien des larmes là, dans les prochaines semaines. Je veux dire, il y a des liens. Puis, écoute, honnêtement, là, Sophie, ça doit pas être facile. Moi, ce que je... Tu sais, c'est... Mettons, tu es avec un gars, finalement. Tu vois le gars qui va embrasser une autre. Et puis là, déjà, je pense que... Moi, j'ai écouté les trois premiers épisodes. Finalement, je me suis laissé avoir, mais pas juste écouter un.
Oui.
Je pense que c'est dans le troisième qu'il y a un gars qui voit la fille s'habiller.
Marek.
Elle embrasse l'autre. Et là, il est comme, OK, ça, c'est pas évident. Et ça, c'est vrai que sur le plan humain, t'as beau embarquer dans le jeu, connaître les règles. Il faut dire que c'est un format. Là, ça existe en version, c'est Love Island aux États-Unis,
oui.
Je veux dire. Ces gens-là savaient dans quoi ils s'embarquaient. Là. C'est pas une émission qui vient d'émerger. Mais même si c'est un jeu, là, il reste que quand tu le fais, t'as des sentiments qui se développent. T'sais, même si c'est rapide, t'as l'impression que t'as comme une petite appartenance, t'as un lien. Et tout à coup, ces liens-là, dans cette émission-là, sont très deviennent très futiles. Et peuvent. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va en voir de toutes les couleurs à travers ça. Je pense que je vais le regarder, mais en mettant quand même. En prenant une pause, tu comprends? Parce que sinon, je vais juste critiquer. Parce que hier, j'en ai même fait presque un sketch du mot « vibe ». Je pense qu'il a été dit 10 fois en une minute.
Tellement. Écoute, ma vibe, la vibe que t'aimais. Écoute, c'est drôle que tu veuilles parler de ça. Parce que moi, j'ai trouvé... Écoute, moi, c'est vraiment ma tante 101, là. Mais c'est comme ça qu'Antoine Robitaille s'appelle. Il s'appelle mon oncle 101. Fait que moi, j'ai décidé que j'étais ma tante 101. Écoute, c'est vraiment un mot en français, un mot en anglais, tout le temps. Mais cette génération-là est beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai que le mot vibe, là, je l'ai jamais entendu aussi souvent de toute ma vie. Fait que moi, je trouve que toi...
Mais d'après moi, si on l'écoute ensemble, là, on va commencer à mettre le mot vibe dans les chroniques parce que, écoute, on pourra pas se l'enlever de la tête, là. Hein? Parce que moi, je suis peut-être pas dans la bonne vibe. Écoute, ça revenait pas hier, c'est là, ben, coudonc. Ce mot-là, il passe partout. Il peut, toutes les émotions peuvent être décrites dans vibe.
Oui, puis tu sais, c'est ta vibe, la vibe B, tu sais, c'est comme, tu peux quasiment le conjuguer, ce mot-là. Et écoute, il y a un autre aspect, je trouve, qui est très intéressant. Premièrement, moi, je trouve les commentaires de Mehdi Boussaïdan absolument hilarants. Je sais pas qui écrit ces textes, j'imagine c'est en grande partie lui, mais les scripteurs qui travaillent avec lui, c'est que tu regardes la série, puis tu te passes des réflexions, comme les filles, elles sont toujours en train de crier. À chaque fois que quelqu'un reçoit un texto, ils se mettent à hurler comme si c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Et t'as toujours le commentaire de Mehdi Boussaïdan qui vient comme prendre un pas de recul. Donc, il dit en fait tout haut ce que nous, on pense tout bas. Puis c'est vraiment hilarant.
Mais j'ai l'impression que plus qu'on va connaître les candidats, là, c'est lui aussi plus qu'il va être avec eux, si on veut.
Ouais.
Je pense qu'il sera encore, il va être encore plus strident. J'ai comme l'impression que, tu sais, une fois que tu connais quelqu'un, tu peux t'en permettre un peu plus. Tu sais, comme téléspectateur, on va les connaître plus aussi. Fait que je pense qu'il va être encore... moi, je pense que ça va rentrer encore plus au poste dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça fait... C'est un peu comme dans Si on s'aimait avec Émilie et Guillaume qui regardent la série en même temps que nous et qui réagissent. J'ai comme l'impression, bon, il y en a un qui est peut-être plus cynique, plus humoristique, mais quand même, il y a quelque chose de... Ça vient chercher les mêmes réflexions. Et moi, avant qu'ils partent, j'étais à la même conférence de presse que Mehdi et Nadé. Ils quittaient 2 jours plus tard pour Los Cabos au Mexique. Et Nadé, c'est, tu sais, elle travaille chez LG2. Elle gérait une équipe. Et finalement, bon, elle a participé à OD. Là, elle pensait pas qu'elle allait l'amener à l'animation. Puis elle m'a dit, écoute, on va faire ça. J'ai dit oui. Alors, elle a sauté dans le train. Elle est partie là-bas. Alors, je trouvais que... c'est une belle personnalité, là, l'animatrice, là, vraiment, là,
c'est
une belle personne. J'étais agréablement surprise. Alors, bon, on va. Ben moi, je te dis, à cause que tu m'as demandé de regarder ça hier, Ben là, je pense que je vais regarder ça. Moi, j'aime, tu sais, c'est comme un CES to the dress, là. Moi, je peux en écouter 10 en ligne, là, si tu en rafales, parce que ça me fait décrocher complètement de la réalité, si on veut. Pour moi, c'est comme un autre monde.
Mais
je
oui.
Je pense pas que j'étais le public cible, là. Tu sais, quand ils ont dit on veut mettre l'île de l'amour à TVA, TVA+, ça, je pense pas que c'est moi le public cible. Mais en même temps, je pense que je vais le regarder différemment que peut-être mes filles ou peu importe. Mais c'est quand même un divertissement. Alors, je pense que c'est important de retenir ça puis arrêter de chercher des leçons de vie à travers tout ça.
Oui, puis les gens qui disent « Ah, c'est tout basé sur les apparences, basé sur les apparences », c'est un peu comme si tu t'en vas chez McDo puis tu dis « Ouais, c'est tout basé sur la viande, c'est tout pour les carnivores ». Oui, mais t'es chez McDo. Alors, ouais, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais. Sur d'un autre point de vue, t'as mentionné évidemment Nadé, Mehdi Boussaïdan. Il y a plusieurs des participants. Il y a des Noirs, il y a des gens, il y a un gars qui est d'origine égyptienne et allemande. Il y a vraiment de la diversité à l'écran dans tous les sens du terme. Écoute, l'émission n'est pas commencée depuis 15 minutes. Il y a une fille qui dit « Ah, oh, ben moi, je couche avec des filles, je couche avec des garçons. Ça fait pas vraiment de différence pour moi. » Donc, je trouve que de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup de diversité à l'écran et ça fait plaisir à voir.
Absolument. Il manque juste la diversité corporelle, mais écoute, on va s'y faire.
Oui, ça, c'est peut-être pour une autre année. L'île de l'amour,
oui, oui.
L'île de l'amour oui. 2, ça va peut-être être ça. Écoute, il y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle, Marie-Claude. Bon, on entend beaucoup parler de ces temps-ci, surtout depuis hier, là, quand le premier ministre François Legault a traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke. Et j'ai l'impression que ce mot-là, beaucoup de gens en parlent et il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent qui savent même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Je trouve que c'est important de revenir à la base puis d'expliquer c'est quoi ce mouvement-là.
Ben moi aussi, je trouve ça important. Je me disais, si Guy Nantel avait fait hier un sondage auprès des députés et ministres de l'Assemblée nationale, on aurait eu des surprises aussi sur
Bonne
la
idée.
Définition du mot « woke
oui. ».
Hein? Parce que, bon, effectivement, on l'utilise beaucoup puis on se rend compte que, mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, on comprend assez rapidement que c'est comme si les « woke » défendent, ben moi, tu peux me reprendre, là, moi, c'est ma définition,
vas-y.
Défendent les minorités. C'est comme s'il y avait tout le temps des oppresseurs. Et on est toujours en train d'attaquer. Moi, tu sais, je vois pas ça tout positif, là, le mouvement woke, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un puritaniste qu'on n'a pas de besoin présentement dans la sphère publique. Parce que ça, à force de défendre les minorités, mais c'est pas juste défendre les minorités, c'est dès qu'on parle d'une minorité, on se fait attaquer. C'est comme si, par exemple, tu sais, dès qu'on parle de, si on dit le mot gros, gras, c'est de la grossophobie. Si on parle d'un trans, on est transphobe. Tu sais, je veux dire, on est
ouais.
rendu le racisme, le sexisme. Oui, il y en a, puis il faut le dénoncer, mais il faut être capable d'en parler. Et quand on parle de, si on parle de la taille de quelqu'un, on n'est pas nécessairement, on est certainement rarement des grossophobes. Alors, je pense que ça, c'est comme si ça nous fait peur. Tu sais, ça amène je sais que tu connais bien le sujet du cancel culture.
Oui.
C'est qu'on arrête de parler, on se retire parce que c'est comme si on devient vite un oppresseur dans le monde du wokisme. Alors moi, c'est la définition que j'en ai. Je sais pas si
oui, oui. Oui, tout à fait. Ben, je trouve ça très bien répondu, très bien résumé. En fait, c'est une vision très binaire de la société entre chaque fois que quelqu'un, il y a une situation, il y a forcément un oppresseur et un opprimé et tout est vu par ce prisme-là. Et c'est pas juste la défense des minorités, c'est la défense des ultra-minorités parce que, bon, tu parlais des personnes transgenres. Bien sûr qu'il faut défendre les droits des transgenres, mais la façon dont on en entend parler en ce moment, c'est comme si il y a 25% de la population était transgenre. Je veux dire, moi, je connais une personne transgenre dans ma famille. Ma nièce est devenue mon neveu et ça a été toute une éducation pour nous et pour le reste de la famille. Mais à part ça, je veux dire, c'est comme c'est 0,01% de la population qui change de sexe. Mais la façon dont on entend parler, c'est comme si c'était que ça concernait 10% de la population. Et juste pour souligner quand même le trait d'humour de Gabriel Nadeau-Dubois, qui donc hier s'est fait traiter de woke par le premier ministre, il a mis une photo de lui sur les médias sociaux et il tient un wok. tu sais, l'espèce de casserole chinoise, asiatique, dans lequel on fait revenir des légumes et de la viande. Puis il a dit, ah ben c'est très utile les wok, moi j'en ai toujours un pour faire. Et là, je me disais, bon, OK, au moins Gabriel Nadeau-Dubois est capable de faire de l'humour avec ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment prononcer ce mot-là, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire.
Et ça fait du bien l'humour, Sophie.
Oui.
Moi, je trouve que de temps en temps, là, surtout quand c'est comme l'Assemblée nationale, à un moment donné, ça fait du bien l'humour parce que ça fait partie de la vie aussi. C'est l'équilibre d'un être humain d'être capable d'avoir de l'humour. Hein? Quand tu n'as pas d'humour, tu es souvent un psychopathe. Là. Alors, là, tu sais, de l'humour, moi, ça me fait du bien. Puis, mais ce que je pensais pas, c'est que c'est François Legault, notre premier ministre, qui allait comme démocratiser le mot « woke ». Je pensais pas que ça allait venir de notre premier ministre à quelque part, tu sais, parce que je pense que là, il y a, même si on l'entendait souvent, je sais pas si c'est cette impression-là, mais j'ai comme, là, on veut la définition. On veut comprendre, justement, parce que même Éric Kerr avait l'air un peu mal pris avec la définition de ce mot-là, quand on lui a demandé après. Et je pense que comme élu, faut quand même que tu connaisses le mouvement « woke », là, parce que c'est ça fait partie de ceux qui manifestent.
Je veux dire,
ça fait partie de ceux qui te critiquent. Ça fait partie de ceux qui annulent la parole de plusieurs personnes. Donc, tu peux pas passer à côté de ce mouvement-là quand même qui prend de l'ampleur là, avec le temps. Là,
et regarde, quant à le mouvement woke qui, par exemple, sous prétexte de défendre les droits des Autochtones, qui trouve ça tout à fait normal et acceptable de brûler des livres, c'est qu'il faut s'intéresser à ce mouvement-là parce que les conséquences sont extrêmement graves. Alors écoute, moi je pense que ce soir je vais me préparer un petit sauté de poulet et de légumes dans mon wok en l'honneur de Gabriel Nadeau-Dubois après avoir écouté un bel épisode de L'Île de l'amour. Merci beaucoup Marie-Claude.
Hey, j'aime bien ta vibe, j'adore.
Ouais, on va viber ensemble. OK.
Salut.
Ma BFF,
bye.
Ma best friend.
Bye.
OK, au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
J'en ai parlé au cours des derniers jours sur les médias sociaux. Je suis absolument choquée de voir des politiciennes aller courtiser des votes comme candidates. Elles vont dans les mosquées. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Elles ont parfaitement le droit d'aller là. Mais elles se voilent, elles portent un voile islamique sur la tête, alors qu'elles ne sont pas musulmanes. Et je trouve ça extrêmement choquant. Donc, j'ai mis sur les médias sociaux au cours des derniers jours des images de, pas n'importe qui, Mélanie Joly, du Parti libéral, accompagnée d'Emmanuela Lambropoulos, elle aussi du Parti libéral, qui sont allées dans une mosquée. Et vous savez comment ça se passe dans les mosquées, les hommes et les femmes sont séparés. Donc, il y a des photos d'elles où elles ne s'adressent qu'à des hommes, pour un parti qui est supposément féministe. Elles ne s'adressent qu'à des hommes dans cette mosquée. On a vu aussi Anami Paul, la leader du Parti vert, dans une mosquée, voilée dans une mosquée à Toronto. J'avais envie d'en parler avec Leïla Lesbeth de l'Organisme pour la défense des femmes. Leïla Lesbeth, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Moi, je ne suis pas de culture arabo-musulmane. Ça me choque de voir des femmes qui ne sont pas de culture arabo-musulmane se mettre un voile sur la tête pour aller dans une mosquée. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images-là, Leïla?
Alors, très sincèrement, je n'ai pas vu ces images parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux et puis... Écoutez, je vous trouve courageuse, hein, bon, c'est votre travail aussi. En fait, d'abord, arabo-musulmane, c'est pas tous les Arabes qui sont musulmans.
Non, bien sûr, et pas tous les musulmans qui sont arabes, hein.
Exactement,
en Indonésie,
qui sont arabes.
Voilà.
Et de plus, en fait, moi j'ai beaucoup de mal quand on utilise le mot musulman pour le mot islamiste, parce que on sait quand même que le voile est l'étendard de l'islam politique et que le voile n'a aucune existence dans le Coran. Donc, il y a quand même deux choses. Est-ce que ces femmes qui se présentent dans les mosquées voilées et qui ont la prétention en fait d'être élus. Alors, je ne sais pas, est-ce que la religion, la religion, ici au Canada, a préséance sur les droits égalitaires. Alors, qu'est-ce qu'elles font comme promotion? Ce que je trouve grave, c'est que ces femmes-là, en fait, choisissent de s'adresser à une catégorie de citoyens. Or, le rôle d'un élu, c'est de garder une neutralité d'apparence et de fait quand il est candidat. Parce que lorsque nous sommes candidats ou candidates, nous représentons toute la société. Nous ne représentons pas un parti politique ou une idéologie politique. Voilà. Donc, elle s'adresse à une communauté assez spécifique, parce qu'elles vont dans un lieu de culte. Ma question aussi, est-ce qu'elles vont aller dans tous les lieux de culte où elles ont choisi uniquement les mosquées? Sachant pertinemment donc que les religions n'ont jamais, elles sont discriminatoires, elles discriminent les femmes. Donc comment peut-on parler d'égalité entre les hommes et les femmes en choisissant des lieux religieux qui discrimine. À la base, il n'y a aucune religion qui reconnaisse l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui est quand même qui me fait sourire et peut-être même rire, c'est que lorsqu'on lutte contre les discriminations, c'est le credo justement de ce parti-là, mais en même temps, elles sont promues. En allant dans les mosquées, c'est la discrimination qui est promue. Ça veut dire on admet effectivement qu'une religion, elle n'est pas la seule, et les autres aussi, ne reconnaissent pas l'égalité homme-femme. Mmh. Mais pour une femme, par exemple, de culture musulmane comme moi, je trouve que c'est quand même... Je me sens insultée qu'on choisisse de promouvoir, en fait, qu'on choisisse d'instrumentaliser l'islam, d'accord, à son profit personnel. Et en faisant fi de toutes ces femmes qui luttent ici et ailleurs, justement, pour une égalité entre les hommes et les femmes, et qui, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont imams, pas ici, mais beaucoup plus en Europe, et qui revendique une lecture libérale, une lecture extensive du Coran.
Oui.
Alors qu'en choisissant de mettre le voile et de se présenter dans une mosquée, c'est un islam rétrograde qui est promu, et moi je me sens effectivement en tant que femme de culture musulmane assez insultée.
Oui. J'en ai parlé avec mon collègue Philippe Vincent Foisy hier ou avant-hier, et je lui disais, j'imaginais une jeune fille au Québec. Prenons par exemple une jeune fille, vous savez, cette histoire-là absolument terrible d'un père de 47 ans qui a été condamné par la justice au Québec parce qu'il avait menacé de tuer ses filles si elles arrêtaient de porter le voile. Alors, ces jeunes filles-là, très courageuses, ont porté plainte contre leur papa, qui a été condamné. Et je me disais, ces jeunes filles-là, et il y en a plusieurs au Québec, des jeunes filles comme celle-là, leur papa leur avait dit, mais pourquoi tu refuses de porter le voile? Regarde, Mélanie Jolie va à la mosquée et elle porte le voile. Elle n'est même pas musulmane et elle porte le voile. Pourquoi, toi, tu refuses de le porter? Emmanuela Lambropoulos du Parti libéral, elle n'est même pas musulmane, elle porte le voile quand elle va à la mosquée. Pourquoi, toi, ma fille, tu refuses de le porter? En faisant ça, ces politiciennes-là légitimisent le voile et le message qu'elles envoient. Vous ne trouvez pas qu'il est dangereux, Leïla?
Il est plus que dangereux parce qu'effectivement, le voile, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le voile. Ce qui se cache derrière le voile, ce n'est pas l'islam, je le répète, c'est l'islam politique. Et l'islam politique, on connaît son projet de société. Son projet de société n'est pas du tout égalitaire. Son projet de société n'est pas du tout, un projet qui appelle à la reconnaissance des droits des femmes. C'est un projet vraiment rétrograde et qui donne qui permet aux femmes d'exister. Voilà. On le voit aujourd'hui dans les pays même comme l'Algérie, quand l'islam politique a pignon sur rue, ce que ce pays est devenu. Ce qui est grave, c'est que des femmes comme moi, qui avons justement fui cette pression qui nous faisait, qui nous étouffait chez nous, on vient ici et nous sommes regardées et considérées comme des Canadiennes de seconde zone. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, même en tant que Canadiennes, prétendre aux mêmes droits que les Canadiennes. Et ce qui est grave, c'est que c'est un parti quand même qui parle d'égalité, qui se dit féministe, alors que dans les gestes qui sont posés, nous ne voyons, c'est-à-dire les paroles ne sont pas traduites en gestes sur le terrain. Mais ce qui est grave, je vous dis, c'est que ce sont des représentantes de la société canadienne. Ce sont des femmes qui prétendent être élues. Et quand on prétend être élu, il faut absolument représenter tous les Canadiens et les Canadiennes et représenter cette neutralité religieuse. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Surtout pour un parti qui considère qu'il œuvre pour la cohésion sociale. Et en œuvrant pour la cohésion sociale, il pose des gestes qui divisent la société en communautés et encore quelle communauté, c'est-à-dire quand il s'agit de l'islam, ils ont choisi une certaine image de l'islam. C'est ce qui est navrant. Effectivement, vous le dites très bien, c'est-à-dire à toutes ces femmes qui ont fui l'islam politique, à toutes ces jeunes filles qui aspirent justement à une vie meilleure ici, ben on leur dit, je ne vais pas m'adresser à toi, mais je vais m'adresser à ton chef religieux. Est-ce que elles ont aussi l'intention de se présenter dans les lieux des autres cultes? Parce qu'il n'y a pas quand même que la religion musulmane. Il y a d'autres religions qui sont pratiquées au Canada. Vont-elles faire la même chose? Ou bien choisissent-elles spécifiquement l'islam? Et si c'est cela est fait dans quel objectif?
Vous posez une excellente question, Leïla. Et si je peux me permettre de rajouter à la réflexion des gens qui nous écoutent, c'est que moi la raison pour laquelle j'ai été mise au courant de cette histoire-là, c'est que sur son site, la Muslim Association of Canada, l'Association musulmane du Canada, met donc sur son site toutes sortes de photos de politiciens qui en effet se sont prêtés au jeu. Et que ce soit ici à Montréal ou que ce soit ailleurs au pays, se sont voilés et sont allés rencontrer les gens dans les mosquées. C'est bizarre parce que pourquoi justement spécifiquement des femmes? Je veux dire, un homme, ça aurait été peut-être moins choquant parce que visuellement, un homme qui va dans une mosquée, il n'est pas obligé de s'habiller différemment. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur le site de l'Association musulmane du Canada, on met aussi des images de politiciennes qui, ont entamé un dialogue avec des représentants de la communauté musulmane, mais qui l'ont fait en rencontrant des gens à l'extérieur de la mosquée ou dans des rencontres par Zoom ou plein d'autres rencontres où elles n'ont pas fait le pas d'aller dans une mosquée et de mettre le voile. Donc, ça veut dire que Mélanie Joly et Emmanuela Lambropoulos auraient très bien pu entamer ce dialogue-là avec tous les représentants de toutes les fois au Canada sans pour autant poser le geste, qui est un geste symbolique, de porter le voile.
Oui, parce que c'est ce que je dis. Vous avez tout à fait raison. Parce que je me dis, d'abord, il y a tous les lieux. C'est ça, c'est choisir un lieu neutre. Or, les lieux de culte ne sont pas des lieux neutres. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler de neutralité. Et surtout, moi, ce qui me vient le plus souvent, c'est parce que on considère le Québec comme une province qui divise. Or, il n'y a pas plus facteur de division que la religion. Parce que, en plus de division et de non-reconnaissance d'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y a aucune religion qui fait la promotion de cette égalité, qui fait la promotion vers un monde meilleur concernant les femmes. Elles sont toujours là, à l'avant-garde, pour justement bloquer tout progrès que demandent les femmes et tout droit égalitaire que demandent les femmes. Or, moi, je trouve que le message envoyé est très, très grave, vraiment, à la veille d'une élection, mais ce n'est pas la première fois. On l'a déjà vu en 2013 et en 2014, ça s'est déjà vu. Mais aujourd'hui, je pense que le fait de vouloir le banaliser, c'est travailler sur notre inconscient pour nous le faire accepter. Pour faire accepter, en fait, qu'une femme canadienne, de croyance ou de culture musulmane, ne peut être que voilée. Alors, moi, je dis, est-ce que je suis exclue de cette société si inclusive, mais en même temps exclusive? Voilà, donc, vous savez, c'est très dangereux. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a aussi des États qui l'ont essayé, c'est-à-dire de cohabiter avec une vision rétrograde de la religion. Et tous ces États n'ont pas réussi parce que l'islam politique a un objectif, c'est un objectif de pouvoir.
Voilà. Ouais. Je trouve.
Je ne parle pas de l'islam, de la spiritualité, de l'islam libéral.
Non. Mais la distinction est très claire. Vous la faites très clairement entre l'islam et l'islam politique. C'est très clair, Leïla. Avant de terminer, je veux juste vous informer. Vous savez, il y a l'historien Frédéric Bastien qui est très actif sur les médias sociaux, qui fait beaucoup de recherches et qui arrive très régulièrement avec des informations extrêmement intéressantes. Et il dit en particulier que cette association, l'association musulmane et canadienne, se réclame ouvertement des frères musulmans, qui est un courant radical et violent de l'islam, dit-il, et que, par exemple, quelqu'un qui a été invité à un moment donné par l'association musulmane canadienne a écrit un livre dans lequel il prône le meurtre des juifs, des appels à la haine, et également qui a un habitué de cet organisme-là qui dit que la réponse de l'islam à l'homosexualité, c'est la mort, et qu'il traite les chrétiens et les juifs de saleté. Donc, c'est quand même assez particulier que ces deux candidates libérales soient associées à tout ça. Leïla Lesbette, merci beaucoup vous disiez que j'étais courageuse de mettre ces informations-là sur Twitter. Ben, je vous retourne le compliment. Vous êtes surtout courageuse, vous, d'aller tout le temps au créneau pour défendre ce point de vue-là, qui n'est pas un point de vue qui est facile à faire entendre dans les médias de nos jours. Merci beaucoup, Leïla Lesbette.
Merci à vous. Et surtout, vous savez, quand des femmes comme nous, qui avons subi l'islam politique et qui l'avons payé au prix de nos vies, et une fois arrivées aussi, c'est cet islam qui est promu au détriment d'un projet plus universaliste, plus réunificateur, que cette façon d'accéder au pouvoir sur de la division et surtout une image rétrograde d'une... Enfin, écoutez, c'est pas l'islam de mes parents, c'est tout. Je ne fais la promotion d'aucune religion, mais faire la promotion de l'islam politique, je trouve que c'est vraiment dangereux et je crains le boomerang.
Merci beaucoup, Leïla.
Merci, Sophie.